dire, c'est une belle étoffe. Et justement, les ceintures étaient un ornement, souvent un ornement précieux. On a de grandes ceintures quand on est un chef. Va t'acheter une ceinture de lin et mets-la sur tes reins. Mais ne la trempe pas dans l'eau. Un peu énigmatique, va t'acheter une ceinture. J'ai acheté une ceinture, selon l'ordre du Seigneur, et je la mis sur mes reins. Une deuxième fois, la parole du Seigneur m'arriva. Prends la ceinture que tu as achetée, que tu portes sur les reins, debout. Va à l'Euphrate et cache-la dans la fente d'un rocher.
C'est un mule qui dure longtemps, il semble. C'est doit aller.
Il doit attendre quelques mois avant de revenir. Donc, prends ta ceinture que tu as achetée, que tu portes sur les reins, debout, va à l'Euphrate, et cache-la dans la fente d'un rocher. Bon, la ceinture n'est pas faite pour ça. La ceinture est faite pour être placée. Pourquoi la mettre dans le feu d'un rocher? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est ton ornement, tu le caches. Donc c'est un mime qui essaie de dire, voilà comment vous vivez. Ce que Dieu vous donne, ce que vous acquérez, c'est-à-dire de participer à son intimité, vous le cachez dans la fente d'un rocher. C'est-à-dire, tout ce que le Seigneur vous donne, tous ses cadeaux, tous les talents que vous avez, vous le cachez. J'allais donc le cacher vers l'Euphrate comme le Seigneur me l'avait ordonné. Bien des jours s'étaient écoulés quand le Seigneur me dit, « Debout, va à l'Euphrate et reprends-y la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. » J'allais à l'Euphrate chercher et retirer la ceinture du lieu où je l'avais cachée. Mais l'Euphrate, ça monte et ça descend. C'est humide. Et voici qu'elle était abîmée, bonne à rien. Autrement dit, vous détruisez les talents que vous avez reçus. Alors la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes, ainsi parle le Seigneur. C'est de la sorte que j'abîmerai l'immense superbe de Juda et de Jérusalem, ce en quoi vous mettez votre gloriole. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit son cœur endurci et court après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent pareils à cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Car de même qu'une ceinture s'attache au rein d'un homme, ainsi j'avais fait que s'attacha à moi toute la maison de Juda. Dieu s'était paré de son peuple comme d'une belle ceinture. Et voilà que cette ceinture est allée se promener au bord de l'Euphrate, c'est-à-dire n'importe où, elle a quitté son Dieu, et maintenant elle n'est plus bonne à rien. Pour qu'il soit mon peuple, mon renom, mon honneur et ma gloire. Mais ils n'ont pas écouté. Toujours ce terme d'écouter. Ils n'ont pas laissé cette présence divine les transformer. Tu diras à ce peuple, autre image, toute cruche peut se remplir de vin. Et s'ils te répondent, ne savons-nous pas que toute cruche peut se remplir de vin? Bon, c'est bien ça. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, voici que je vais remplir d'ivresse tous les habitants de ce pays. C'est vous les cruches, hein, autrement. Les rois qui occupent le trône de David, les prêtres et les prophètes, et tous les habitants de Jérusalem, c'est toujours tout le monde, hein. Et il les prend un peu par catégorie. Les rois d'abord, hein, les prêtres, les prophètes, les grands, hein, tous les habitants de Jérusalem. Et je les casserai l'un contre l'autre. C'est bien ce que les gens font. Hein. Ils se cassent constamment les uns contre les autres. Ils se font du tort les uns aux autres. Ils se détruisent, ils se critiquent, ils se bêchent les uns les autres. Toute cruche est faite pour être remplie de vin. Et au lieu de se laisser remplir du vin, qui est là, cette présence divine, on déblatère, on se fait du mal les uns aux autres. Sans pitié, sans merci, sans m'attendrir, je les abîmerai. Mais c'est eux qui s'abîment. Hein. Écoutez, tendez l'oreille. Remarquez que c'est comme un refrain. Plus d'orgueil, c'est le Seigneur qui parle. Rendez gloire au Seigneur votre Dieu avant qu'il ne fasse sombre et que vos pieds ne se heurtent aux montagnes de la nuit. Vous comptez sur la lumière. Il la réduira en ténèbres, la changera en obscurité. Si vous n'écoutez pas cet avertissement, je pleurerai en secret votre orgueil. Je pleurerai en secret votre orgueil. Je me cacherai au fond dans votre attitude. Mes yeux verseront des larmes, car le troupeau du Seigneur part en captivité. Cette captivité n'est pas en dehors, hein. Cette captivité, c'est en nous qu'elle est. Et nous rejoignons encore ici, vous voyez, hein, les sentiments justement du Père Choufani. Dis au roi et à la reine mère, asseyez-vous bien bas, car elle est tombée de votre tête, votre couronne de gloire. Les villes du Néguev sont bloquées, personne n'y donne accès. Tout Juda est déporté, déporté tout entier. Déjà, en 597, la première déportation, ou bien est déjà faite, ou bien elle va se faire, sous peu. Lève les yeux, Jérusalem, et regarde. Ceux qui arrivent du nord, où est-il, le troupeau qui te fut confié, les brebis de ta gloire? Que diras-tu quand ils te visiteront en triomphateur, toi qui les avais habitués à tes intimités? Les douleurs ne vont-elles pas te saisir? Comme une femme en travail? Tu te demandes peut-être, mais pourquoi de tels malheurs m'arrivent-ils? Pour ta grande perversité, on t'a relevé les robes, on t'a violenté. Un Éthiopien peut-il changer de peau? Une panthère de pelage? Autrement dit, nous sommes toujours les mêmes. Et nous allons d'un côté ou à l'autre, peu importe. Nous nous donnons au premier venu. Et vous, pouvez-vous bien agir, vous, les habitués au mal? Je vous disperserai donc comme paille légère au souffle du désert. Tel est ton loup, le salaire de ta rébellion. Cela vient de moi, oracle du Seigneur, puisque c'est moi que tu as oublié, en te confiant à l'imposture. Moi-même, je relève tes robes jusqu'à ton visage pour qu'on voie ta honte. Oh, tes adultères, tes cris de plaisir, ta honteuse prostitution, sur les hauteurs, dans la campagne, j'ai vu tes horreurs. Malheur à toi, Jérusalem, qui reste impure. Combien de temps tarderas-tu encore? Et c'est ainsi qu'il y a à se livrer au Seigneur, comme on est. Comme renégat, comme tête, comme traître, comme lâcheur. Et il faut pouvoir nous livrer ainsi à lui. Parole du Seigneur, qui fut adressée à Jérémie à l'occasion de la grande sécheresse. On ne sait pas exactement, on suppute, hein. Pour savoir quand elle s'est faite à l'époque de Joachim, vraisemblablement, mais comme il y en a de temps en temps, on ne sait pas de laquelle il s'agit. La grande sécheresse. C'est-à-dire qu'on passe à travers des épreuves extérieures. Mais qu'est-ce qu'elles nous disent, ces épreuves? Est-ce qu'elles nous ramènent à l'intérieur? Juda est dans le deuil, ses villes dans la tristesse, elles s'abîment vers le sol. Le cri de Jérusalem monte. Les riches envoient les petits chercher de l'eau. Ils arrivent aux citernes, ils ne trouvent point d'eau. Ils reviennent avec leurs cruches vides. Le sol cesse de produire, c'est que la pluie manque au pays. Les laboureurs consternés se découvrent la tête. Même la biche en plein champ abandonne sa portée, tant l'herbe fait défaut. Les onagres, dressés sur les monts chauves, appelaient comme des chacals, leurs yeux s'obscurcissent, faute de verdure. Si nos crimes parlent contre nous, agis, Seigneur, pour l'honneur de ton nom. Et on voudrait qu'à ce moment-là, le Seigneur agisse. Il faudrait qu'à ce moment-là, on puisse quand même pousser sur le bouton et que ça vienne. Hein. Oui. Nombreuses furent nos rébellions. Nous avons péché contre toi. Donc c'est la prise de conscience. Espoir d'Israël, Seigneur, son sauveur en temps de détresse, pourquoi es-tu comme un étranger en ce pays, comme un routier qui s'arrête pour une nuit? Pourquoi ressembles-tu à un homme hébété, à un guerrier incapable de délivrer? Pourtant tu es parmi nous, Seigneur, et nous sommes appelés de ton nom, ne nous délaisse pas. Quand on est dans la pénurie, quand on ne peut plus vivre, quand on n'a plus les moyens, alors on crie.
C'est un capitule complet. Pardon? Ce passage-là est un capitule.
Oui, oui, le complet. Pourtant, tu es parmi nous, Seigneur, et nous sommes appelés de ton nom, ne nous délaisse pas. Quand nous avons besoin, quand nous ne pouvons plus nous sauver nous-mêmes, alors on recourt à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il fait réfléchir précisément à ce recours. Faudrait-il que Dieu bouche les trous? Alors ce ne serait pas Dieu. Dieu est à l'intérieur de l'homme. Ainsi parle le Seigneur au sujet de ce peuple. Il trouve un tel plaisir à courir en tous sens. Il n'épargne point leurs jambes. Mais le Seigneur ne les aime pas. Présentement, il se souvient de leurs crimes et punit leurs péchés. Et le Seigneur me dit, c'est de nouveau le petit refrain, n'intercède pas en faveur de ce peuple pour son bonheur. Même s'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. Même s'ils présentent holocauste et oblation, je n'aimerai point ces gens. Mais c'est par l'épée, la famine et la peste que je m'apprête à les exterminer. De nouveau, ne prenons pas ça au sens immédiat. Dieu ne prend pas plaisir à exterminer. Mais ils vivent dans une situation où ils s'exterminent les uns les autres. Et il faut bien que Dieu se mette dedans. Je répondis à Seigneur, Seigneur, voici que les prophètes leur disent, vous ne verrez pas l'épée et la famine ne vous atteindra pas, mais je vous octroierai une paix solide en ce lieu. Ça, ce sont les prophètes. Les prophètes qui caressent le peuple dans le sens du poil. Vous en faites pas, hein, ce sont tous les... pour les élections, hein, chacun dit, suivez mon programme, c'est le meilleur, c'est toujours le meilleur. Mais qu'est-ce que nous réalisons de ce programme? Voici que les prophètes leur disent, vous ne verrez pas l'épée, la famine ne vous atteindra pas, ça ira mieux demain, demain. Mais je vous octroierai une paix solide en ce lieu. Alors le Seigneur me dit, c'est le mensonge que ces prophètes annoncent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés. Je ne leur ai rien ordonné, je ne leur ai point parlé. Vision de mensonge, divination creuse, rêverie de leur cœur. Voilà ce qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, ces prophètes qui prophétisent de par mon nom, alors que je ne les ai pas envoyés, et qui racontent qu'il n'y aura en ce pays ni épée ni famine, eh bien c'est par épée et famine qu'ils mourront, ces prophètes-là. Quant aux gens à qui ils prophétisent, ils seront jetés dans les rues de Jérusalem, victimes de la famine et de l'épée. Il n'y aura personne pour les enterrer, ni eux, ni leurs femmes, ni leurs fils, ni leurs filles. Je verserai sur eux leur méchanceté. Traduisons aujourd'hui « spirale de la violence ». Tu leur diras cette parole. Mes yeux fondent en larmes, jour et nuit, sans rémission, car un grand désastre atteint la fille de mon peuple. Une plaie très grave, ça vient aussi dans le, la prière du temps présent. Si je sors dans la campagne, voici les gens percés par l'épée. Si je rentre dans la ville, voici les tortures de la faim. C'est ce que les hommes font de leur terre. Prophètes et prêtres eux-mêmes sillonnent le pays. Ils ne comprennent pas. Nous voudrions un Dieu qui intervienne quand nous sommes dans l'embarras. As-tu pour de bon rejeté Judas ? Ton âme est-elle dégoûtée de Sion ? Pourquoi nous avoir frappés sans espoir de guérison ? Nous attendions la paix ? Rien de bon. Le temps de la guérison ? Voici l'épouvante. Nous connaissons, Seigneur, notre impiété, la perversité de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. Et vous voyez que le prophète joue les deux rôles. Il joue le rôle du Seigneur, parole du Seigneur, et il joue le rôle du peuple, il demande pardon. Donc il se laisse traverser, et par la parole du Seigneur, et par la parole de ses contemporains. Cesse de rejeter pour l'honneur de ton nom, ne profane point le trône de ta gloire. Souviens-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Nous l'avons rompu, hein. Mais souviens-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les vanités des païens, en est-il qui fasse pleuvoir ? Est-ce le ciel qui donne l'ondée ? N'est-ce pas toi, Seigneur ? Ô notre Dieu, en toi nous espérons, car c'est toi qui fais tout cela. Quand il n'y a plus de pluie, on dit, Seigneur, c'est toi qui donnes la pluie, hein. Voilà. Le Seigneur me dit, même si Moïse et Samuel, qui sont des intercesseurs, hein, des grands intercesseurs, c'est Moïse et Samuel, se tenaient devant ma face, je n'aurais pas de cœur pour ce peuple-là. Chasse-les loin de mes yeux, qu'ils s'en aillent. Et s'ils te disent où aller, tu leur répondras, ainsi parle le Seigneur. Qui est pour la peste, à la peste. Qui est pour l'épée, à l'épée. Qui est pour la famine, à la famine. Qui est pour la captivité, en captivité. Autrement dit, ça c'est votre jeu d'homme. Votre jeu d'homme, c'est la guerre. On veut toujours manger, dominer son semblable. Je vais préposer sur eux quatre jolies familles, oracle du Seigneur. L'épée pour tuer, les chiens pour traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et exterminer. Autrement dit, c'est une constatation des faits. Je ferai d'eux un objet d'épouvante pour tous les royaumes de la terre à cause de Manassé. Autrement dit, c'est le roi impie, hein, Manassé. Donc souvenez-vous un peu de Manassé. Là, c'est le mauvais exemple par excellence. Fils d'Ézéchias et roi de Juda pour ses méfaits à Jérusalem. Autrement dit, vous ne faites que continuer les agissements pervers du roi Manassé, de l'impie Manassé. Qui donc a compassion de toi, Jérusalem. Qui donc te plaint ? Qui donc s'arrête pour demander comment tu vas ? Toi-même m'as repoussé, oracle du Seigneur. Tu m'as tourné le dos. Alors contre toi, j'ai étendu ma main destructrice. J'en ai assez de faire grâce. Alors je les ai passés au vent dans les villes de ce pays. Je fais le tri. C'est pas Dieu qui détruit. C'est l'homme qui est créature de Dieu qui se détruit. C'est l'homme qui détruit l'homme. Je prive mon peuple d'enfants, je l'anéantis à cause de leur voix dont ils ne se détournent pas, chouve de nouveau. Leurs veuves sont devenues plus nombreuses que le sable de la mer. Sur les mers des jeunes guerriers, j'amène le dévastateur en plein midi, je fais tomber sur elles soudain terreur et épouvante. Le cœur manque à la mère de cette fille, elle rend l'âme. Son soleil s'est couché avant la fin du jour. La voilà honteuse et consternée. Et ce qui reste d'eux, je le livrerai à l'épée face à leurs ennemis, oracle du Seigneur. Voilà. Les hommes se détruisent eux-mêmes. Pourquoi fait-on comme si Dieu était l'auteur, ou en tout cas l'instigateur de tout cela? Parce que Dieu fait cause commune avec l'homme. Dieu est présent dans cette réalité méchante et perverse qu'est l'homme. Il y est. S'il y avait un autre élément, un autre Dieu, Dieu ne serait pas Dieu. Dieu doit être présent partout. Et on fait comme s'il cautionnait tout. Tellement il est à l'intime de la présence humaine. Et alors nous avons, et nous achèverons par là maintenant, nous avons comme le renouvellement de la vocation. Au milieu de cette incertitude, au milieu de ce délaissement, dirait-on. C'est la deuxième confession. Malheur à moi, ma mère, car tu m'as enfanté. Je voudrais ne pas être né. On rejoint très fort Job ici de nouveau. Malheur à moi, ma mère, car tu m'as enfanté. Homme de querelle et de discorde pour tout le pays. Jamais je ne prête ni n'emprunte. Pourtant, tout le monde me maudit. En vérité, Seigneur, ne t'ai-je pas servi de mon mieux, intercédé auprès de toi pour mon ennemi, au temps de son malheur et de sa détresse? Tu le sais. Tu le sais. Moi, j'ai conscience d'avoir fait tout mon devoir. Et pourtant, je reçois des coups de tous les côtés. On m'en veut. Et c'est à cause de toi, Seigneur, qu'on m'en veut. C'est bien ça. Brise-t-on le fer du Nord et les reins? Est-ce qu'on peut s'opposer aux gens qui viennent du Nord, là, aux Babyloniens? C'est possible. Ta richesse et tes trésors, je vais les livrer au pillage. Cela paiera pour tous tes péchés, dans toutes tes frontières. Je te rendrai esclave de tes ennemis, dans un pays que tu ne connais pas, car ma fureur a allumé un feu qui sur vous va brûler. On dirait que même Dieu ne peut pas s'opposer aux invasions. C'est la loi des hommes, la dureté des hommes. Alors, la parole qui monte, la prière, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu seras arrivé dans ton royaume. C'est la parole du larron. Seigneur, souviens-toi de moi, visite-moi. Et venge-moi de mes persécuteurs. Et c'est bon qu'ils disent cela. On ne peut pas dire que les persécuteurs font le bien. Ta colère est trop lente. Ne me laisse pas enlever. Reconnais que je subis l'opprobre pour ta cause. Quand tes paroles se présentaient, je les dévorais. Ta parole était pour moi ravissement et allégresse de mon cœur. Car c'est ton nom que je portais. Seigneur, Dieu des armées. Et pourtant, j'ai fait comme j'aurais dû, hein, comme je devais. Jamais je ne m'asseyais joyeux dans une réunion de rieurs. J'ai pas fait la fête. Sous l'emprise de ta main, je me suis tenu seul. Car tu m'avais empli de colère. J'ai médité pendant de longues années. Pourquoi ma souffrance est-elle continue? Ma blessure incurable, rebelle aux soins? Ah! Serais-tu pour moi comme un ruisseau trompeur aux eaux décevantes? Voilà la tentation la plus profonde. Le Seigneur m'a déçu. Je vais pour chercher de l'eau. Hein. Hier, il y avait encore un filet d'eau, là, ce ruisseau. J'y vais, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, plus d'eau. Seigneur, est-ce que tu es comme cela? Que tu es celui qui me déçoit. Mais si nous ne passons pas par là, le Seigneur est toujours, si vous le voulez, le recours au dernier moment. Mais Dieu n'est pas ça. Il est beaucoup plus grand que cela. Alors,
la nuit des sens et de l'esprit chez les mystiques.
Oui. La nuit. Alors le Seigneur répondit, si tu reviens, je te ferai revenir. Si tu ouvres ton cœur à ma grâce pourra remplir ton cœur. Si tu reviens, je te ferai revenir. C'est toujours un jeu sur le jeu de mots, hein, chouf, toujours, la même racine. Et si tu exprimes des pensées nobles et non viles, tu seras comme ma bouche. C'est fort, tu seras comme ma bouche. Eux reviendront vers toi, et toi tu n'auras pas à revenir vers eux. Laisse un peu le temps à ma grâce d'agir, dit le Seigneur. Je ferai de toi pour ce peuple-là une muraille de bronze inébranlable. Ils te combattront, mais ils ne pourront pas te vaincre. Car je suis avec toi. C'est vraiment le renouvellement de la vocation. Autrement dit, cette vocation, elle tient toujours. Je continue de t'appeler. Car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Oracle du Seigneur. Je veux te délivrer de la main des méchants et te racheter de la poigne des violents. Voilà, nous avons ici la profonde crise de foi et d'espérance du prophète. Hein, les mystiques, comme le souligne Pierre, hein, les mystiques passent par là. Par la découverte absolue de leur impuissance. Pas seulement d'un peu, mais de rien du tout. Du vide total. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a vécu comme ça pendant 2 ans avant sa mort. Où nous ne pouvons tenir que par la grâce de Dieu, pas par nous-mêmes. Tant qu'on a encore un peu de volonté, une force de volonté, on peut penser que l'on fait quelque chose pour. Non. Reviens, je te ferai revenir. C'est-à-dire, si tu reviens, ce n'est pas « reviens d'abord et je te ferai revenir », non. Mais si tu reviens, tu sauras que c'est moi qui te fais revenir. Tu ne peux revenir, tu ne peux retourner vers Dieu qu'avec la force même et l'amour de Dieu. Voilà, c'est ce qu'on appelle la descente aux enfers. Voilà. Je vous avais dit au début que Jérémie était un livre difficile. il est fait qu'il est difficile à lire une page après l'autre, à la suite, parce que quand on le lit comme cela, c'est toujours Jérémie qui vit quelque chose. Mais quand on le lit en entrant dedans, on se rend compte que c'est vraiment notre vie qui est mise en question. Et le sens profond de notre existence. Parce que nous percevons bien que Jérémie nous fait la grâce de nous mettre au cœur de ses sentiments profonds, de son intimité. Et nous sommes toujours tentés, comme dans la vie de tous les jours, ou bien de rejeter ce Dieu qui fait mal, et donc de faire notre vie à l'écart de lui, ou bien de nous culpabiliser. Bon, ça, ce serait deux mauvaises lectures de Jérémie. Aussi bien rejeter Dieu parce que ça fait mal, Dieu. Et c'est vrai, c'est normal que Dieu fasse mal, puisqu'il est plus grand que nous. Et nous culpabiliser, ce serait nous centrer sur nous-mêmes. Et donc la véritable situation du lecteur ou de la lectrice de Jérémie, c'est d'abord de communier. D'abord d'essayer, comme le disait le père Émile Chouffani, essayer de comprendre. Essayer de comprendre comment parle ce grand incompris. Incompris. De son temps, il a été persécuté et il a été entraîné par les égyptophiles et il est mort là en Égypte. Loin de tout ce pourquoi il avait vécu. Et le bilan de son action, extérieurement, peut être un grand échec. Et pourtant, son livre a continué d'exister parmi les autres prophètes, et son message est un message très proche de celui de Jésus. Et ce qu'il a vécu est très proche de l'Évangile. Alors, essayez de descendre dans cette intimité du prophète, aux prises avec sa propre existence et Dieu dans son existence, et voir comment, je ne sais pas s'il faut dire, il en sort, mais comment, effectivement, il peut porter cela, et il émerge à travers cela. Donc la vocation semble renouvelée, et ici, dans une intimité plus profonde avec le Seigneur, parce que cette vocation renouvelée passe ou est passée à travers déjà toute une expérience de déception. Déçu par le peuple, déçu par les idées qu'il se faisait de Dieu. Et c'est un chemin de grâce, un chemin de purification. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a que l'amour qui nous purifie. L'amour. L'amour de l'autre, et puis éventuellement l'amour pour l'autre. Mais d'abord l'amour de l'autre que je reçois. La parole du Seigneur, au chapitre 16, me fut adressée en ces termes. C'est un peu lassant d'entendre toujours « la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes ». Il n'y avait pas de coup de téléphone, même pas de téléphone rouge. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand un prophète dit « la parole du Seigneur me fut adressée » Ça veut dire que l'expérience de ce que je vis n'est pas mon expérience, elle m'est donnée comme un cadeau à vivre. Et donc tout ce que je vis est illuminé par la présence de Dieu. C'est d'abord ce que je vis. Le Seigneur ne lui a pas dit « va acheter une ceinture », pas donné un coup de téléphone, rien mis sur son GSM, Rien du tout. Mais il a fait cela, et puis il a oublié sa ceinture, alors qu'il était allé se promener au bord de l'Euphrate, c'est bien possible. Et puis il revient après, il dit, tiens, oui, c'est vrai, j'avais laissé une ceinture par ici. C'est un fait en soi anodin. Mais c'est tout événement devient significatif pour quelqu'un qui est en rapport intime avec Dieu. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Ah, ici c'est important, au chapitre 16. Ne prends pas femme. Et ça c'est un cas absolument unique dans l'histoire d'Israël. Que Dieu demande à un homme de ne pas se marier, alors que le tout premier commandement, croissez, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. C'est le tout premier commandement du Pentateuque. Le mariage. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes, ne prends pas femme. N'aie en ce lieu ni fils, ni fille. Donc c'est la stérilité qui lui est donnée, en quelque sorte, comme mission. La solitude, comme mission. Car ainsi parle le Seigneur, sur les filles et les fils qui vont naître en ce lieu, sur les mères qui les enfanteront, et sur les pères qui les engendreront en ce pays, ils mourront de mâle mort, sans avoir pleurs ni sépulture. Ils serviront de fumier sur le sol, ils finiront par l'épée et la famine, et leurs cadavres seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes sauvages. Cette solitude qui t'est demandée, cette stérilité qui t'est demandée, est un signe que tu vis intensément ce que vit le peuple. Le peuple est réduit à la solitude, il s'est réduit lui-même à la solitude, et à la stérilité. Dit autrement, nous vivons une expérience terrible. Et j'ai entendu moi-même des rabbins comparant la Shoah, c'est-à-dire l'extermination des 6 millions de Juifs, à cette parole de Jérémie. Comment Dieu va-t-il passer à travers cette stérilité, à travers cette solitude? Oui, ainsi parle le Seigneur. N'entre pas dans une maison où l'on fait le deuil. Ne va pas te lamenter, ni compatir avec les gens. Car j'ai retiré ma paix de ce peuple. De nouveau, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être avec les gens, au contraire. Mais ce n'est pas le but dernier, il ne faut pas en rester là. Il y a à travers ce que tu vas vivre avec ce peuple, tu vas vivre dans le deuil, bien sûr, que tu vas partager nécessairement, mais il y a quelque chose de plus important. C'est de retrouver vraiment la présence du Seigneur, même à travers le deuil, même à travers la solitude. Car j'ai retiré ma paix de ce peuple, oracle du Seigneur. L'affection et la pitié. Grands et petits mourront en ce pays, sans être enterrés ni pleurés. Pour eux, on ne se fera ni incision ni tonsure. C'était des expressions de deuil qui étaient d'ailleurs interdites en Israël. Il ne faut pas se faire du mal parce que quelqu'un est mort. Peut vivre intensément cette mort comme une séparation et donc comme une ouverture vers la vie. Mais il ne faut pas se meurtrir pour cela. On ne rompra pas le pain à qui est dans le deuil pour le consoler au sujet d'un mort. On ne lui offrira pas la coupe de consolation pour un père ou une mère. C'est-à-dire on essaiera de vivre vraiment ce qu'on vit. Vivre le deuil, c'est vivre le deuil. Et ne pas chercher des consolations en dehors. Le vivre intensément, tout simplement. Et c'est ce qu'il y a à faire, évidemment. Dans le cas de la mort d'un être cher, d'une privation, d'abord accueillir cette réalité-là. Souvent, nous avons toujours le sentiment de crispation. Nous ramenons les choses à nous. Mais accueillir. accueillir la souffrance de quelqu'un. Et quand nous l'accueillons vraiment, nous sommes proches. Et nous trouvons les gestes pour être proches. Mais, je dirais, dans une grande simplicité, dans une grande sobriété. Mais évidemment, dit cela, par le prophète, dans un moment où il y a beaucoup de morts, ça commence en tout cas, et il va y en avoir de plus en plus, et on n'aura pas le temps de faire le deuil, essaye un peu de vivre ce qui est à vivre d'abord. N'entre pas non plus dans une maison où l'on festoie, pour t'asseoir avec eux à manger et à boire. Ne te laisse pas distraire de ta mission. Car ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire disparaître d'ici sous vos yeux et de vos jours les cris de jubilation et de joie, les chants du fiancé et de la fiancée. Ce sont aussi des poncifs que on répète. Ce sont des signes de joie. Donc, pas de joie extérieure, s'il vous plaît. Il peut y avoir une joie profonde avec une tristesse profonde. Ce sont des choses différentes de la joie exubérante ou de la tristesse extérieure. Donc c'est que la vie du prophète, sa manière de vivre autrement dit, va devenir un signe sérieux de la présence divine. Quand tu auras annoncé à ce peuple toutes ces paroles, et qu'on te demandera « Pourquoi le Seigneur a-t-il proclamé contre nous tout cet immense malheur ? Quel est notre crime ? Quel péché avons-nous commis contre le Seigneur notre Dieu ?» C'est déjà une bonne question, de se la poser ainsi. Alors tu leur répondras, c'est que vos pères m'ont abandonné, oracle du Seigneur. Ils ont suivi d'autres dieux, les servant et se prosternant devant eux. Et moi, ils m'ont abandonné et n'ont pas gardé ma loi. Et vous, vous avez agi plus mal que vos pères. Voici chacun de vous se conduit selon son cœur endurci et pervers, sans m'écouter. Vous ne tenez pas compte de moi dans votre vie. Je vous jetterai donc hors de ce pays, dans un pays inconnu de vous et de vos pères. Là, vous servirez d'autres dieux jour et nuit, car je ne vous ferai plus grâce. Autrement dit, ce que vous vivez est sérieux. Autrement, vous n'avez plus de repères. Aussi, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où l'on ne dira plus « Le Seigneur est vivant, qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. » Chai Adonai, c'est ce qu'on dit, le Seigneur vivant, qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Mais le Seigneur est vivant, qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord. Autrement dit, la captivité ne sera que d'une certaine durée. La mort n'est pas le plus grand mal. La déportation n'est pas la chose la plus horrible. Ce sont des réalités de ce monde. Et on rappelait le passé, eh bien, il y aura quelque chose de plus grand encore que le passé. Il a fait revenir, il a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte, eh bien, de la même manière, il fera revenir les enfants d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où on les avait dispersés. Je les ramènerai, autrement dit, je les ferai revenir sur la terre que j'avais donnée à leur père. À travers les vicissitudes de l'homme, à travers la spirale de la violence, il y a une cohérence du dessein de Dieu. Dit encore autrement, nous sommes prédestinés au salut. Nous sommes faits pour être sauvés. Il y a à passer par où il faut passer. Et Il annonce déjà le retour avant d'annoncer le départ. Voici, je vais envoyer quantité de pêcheurs, oracle du Seigneur, qui les pêcheront. Puis j'enverrai quantité de chasseurs qui leur donneront la chasse sur toute montagne et colline, jusqu'au creux des rochers. Les pêcheurs et les chasseurs, ce sont les Babyloniens. Car mes yeux surveillent toutes leurs voies, elles ne m'échappent pas et leurs crimes ne se dérobent pas à mes regards. Je paierai au double leurs crimes et leurs péchés, parce qu'ils ont profané mon pays par les cadavres de leurs horreurs et rempli mon héritage de leurs abominations. Ne vous en faites pas, la vengeance viendra. Et la vengeance, ça fait partie de la justice immanente. Ce sont les dominateurs d'aujourd'hui, demain ils seront dominés par d'autres. Ça c'est la loi du plus fort qui se propage chez les hommes. Et justement, il a parlé d'Israël qui va aller en captivité et qui reviendra. Il a parlé de l'invasion et de cette invasion qui sera châtiée. Seigneur, ma force et ma forteresse, mon refuge au jour de détresse, à toi viendront les nations. Et donc, plus loin que ce châtiment, il y a le retour des nations aussi. Et vous retrouvez la même chose chez le Père Émile Choufani. Seigneur, ma force...